RFI 9h30 à Paris, 7h30 en temps universel. Et un nouveau point sur l'info africaine avec vous, Édouard Dupénoit.
À 3 mois pour préparer sa prise de poste, Sidi Ould Tah, élu hier à la tête de la Banque africaine de développement, le candidat mauritanien s'est imposé au 3e tour. Il doit prendre son poste en septembre et la route s'annonce déjà pentue. Des salles de marché, des brokers et des courtiers. Nous sommes à la bourse d'Abidjan, la toute première bourse des matières premières agricoles. La cotation démarre à la mi-journée. Après 7 années de gestation, Barthélémy Diaz en solo, l'opposant sénégalais lance son propre mouvement, loin de son compagnonnage avec Khalifa Sall. Il entend rallier les déçus de la politique PASTEF. Premier écueil judiciaire pour les opposants maliens qui contestent la dissolution des partis politiques. 3 tribunaux se déclarent incompétents pour trancher l'affaire. Et puis au Nigeria, l'implacable décompte macabre d'Amnesty International. L'ONG a recensé 2 ans de violences armées depuis en fait l'élection du président Bola Tinubu, une violence toujours enracinée, toujours aussi mortelle. Au moins 10 000 personnes ont péri depuis 2023. La Banque africaine de développement reste donc dans le giron ouest-africain. Le mauritanien Sidi Ould Tah a été élu hier à la tête de la BAD. Il succédera au Nigérian Akinwumi Adesina. Il a remporté le 3e tour du scrutin avec 76% des voix africaines face aux Zambiens Samuel Mudzele Mimbo. Le nouveau dirigeant de la BAD est un polyglotte qui connaît très bien les arcanes de la finance continentale. Il vient de passer 10 ans à la tête de la Banque arabe de développement économique en Afrique. Une expérience qui pourrait lui permettre de surmonter les premiers défis qui l'attendent. Explication Julien Clémenceau.
Si globalement la banque fonctionne bien, son efficacité peut largement être améliorée. D'abord, en apaisant les tensions. Son prédécesseur, le Nigérian Akinwumi Adesina, pouvait être clivant. La banque doit aussi être plus agile. Et cela passe d'abord par l'accélération du décaissement des fonds pour les projets. L'étude de financement prend parfois plusieurs années. L'autre priorité absolue, celle-là, ce sera d'augmenter la mobilisation des ressources. La Banque africaine de développement investit environ 10 milliards de dollars par an, mais c'est loin d'être assez. Et là, il va falloir en plus compter avec un possible désengagement américain. Dans le projet budgétaire 2026 présenté par l'administration Trump, ce sont 550 millions de dollars prévus pour le Fonds africain de développement de la BAD qui ont été annulés. Peut-être que la solution viendra des États du Golfe. C'est ce que le Mauritanien, qui avant dirigeait la Banque arabe pour le développement en Afrique, a plus ou moins promis.
À Julien Clémenceau, des courbes et des graphiques, des chiffres et des pourcentages encore. Direction Abidjan, où l'on attend maintenant l'ouverture des marchés, la toute première vraie journée de cotation pour les matières premières agricoles. La BMPA tient sa première séance véritable. Il y a eu la séance test, symbolique, avant-hier, 89 tonnes de produits échangés en 10 minutes, pour environ 31 millions de francs CFA, plus de 47 000 euros. La bourse, pour l'instant, concerne la cajou brute, la noix de cola et le maïs. Benoît Almeras, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour les cultivateurs ?
Concrètement, les cultivateurs peuvent livrer leurs stocks aux entrepôts homologués situés près des zones agricoles. Ces producteurs reçoivent alors un récépissé qui sert de titre de transaction à la bourse. Raoul Alex Zouzou dirige ACBH, l'une des 3 sociétés de courtage agréées.
Avec ce récépissé-là, ces coopératives et producteurs viendront rencontrer des courtiers pour pouvoir faire vendre leurs productions en ligne. Et à partir de la plateforme de la bourse, le courtier qui est également en relation avec des industriels, des transformateurs et des exportateurs, proposera ces productions-là pour les acheteurs.
Pris ensemble, les entrepôts homologués offrent une capacité totale de 500 000 tonnes. Bessoro est le patron de l'organisation interprofessionnelle de la filière Anacard. Pour lui, ce stockage associé au système boursier présente des avantages.
La production de l'Anacard se fait sur une courte période. Du coup, on a l'abondance sur la période de récolte. Pour nous, le fait de capter le stock sur une période où il y a l'abondance, ça permet de réguler le marché et donc de vendre à plus tard quand la demande est peut-être importante ou bien intéressante pour le producteur.
À moyen terme, l'objectif de la Bourse des matières premières agricoles est de faciliter les transactions de 20 à 30% des productions de noix de cajou brute, de noix de cola et de maïs. Les cours, eux, ne pourront pas varier de plus de 10 à 15% par séance selon les courtiers. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
Et les séances de cette BMPA sont ouvertes entre 10h et midi temps universel, du lundi au vendredi, la Côte d'Ivoire par ailleurs, où se trouve en ce moment Ousmane Sonko, le premier ministre sénégalais arrivé hier soir, accueilli à Abidjan par son homologue Robert Beugré Mambé, 3 jours pour une visite dite d'amitié et de travail. L'actualité politique au Sénégal, proprement dit, Barthélémy Diaz qui se lance en solo, l'ancien député et maire de Dakar qui crée Sénégal Bignoubok, un nouveau mouvement d'opposition position. Après des années à évoluer avec son mentor, Khalifa Sall, il s'est séparé de lui il y a une dizaine de jours, sans fracas, mais avec la volonté de voler de ses propres ailes, Léa Lisa Westerhoff.
En boubou blanc et dans une salle comble, Barthélémy Diaz a soigné l'annonce de la création de son mouvement politique. Un mouvement né de la fatigue d'attendre, a-t-il dit, et du refus, je cite, de courber les chines. Après deux coups durs en politique, la perte de son siège de député, puis de maire de Dakar en décembre dernier, la création de ce mouvement sonne comme une façon de reprendre la main, analyse un journaliste, d'affirmer son existence sur la scène politique. Car désormais, Barthélémy Diaz, qui s'est séparé il y a 15 jours de son mentor, Khalifa Sall, ancien maire de la capitale, lui aussi, fait chemin seul. Créer ce mouvement Binyou Bok, le Sénégal que nous partageons, c'est donc se positionner comme l'une des figures de l'opposition qui compte, estiment plusieurs analystes, au moment où le champ politique est en pleine reconfiguration au Sénégal. Mardi, l'ancien maire de 49 ans a donc lancé un appel très large à tous les déçus de la politique actuelle et ceux qui galèrent au quotidien, soulignant son ambition de rassembler au-delà des clivages politiques et à un moment, un an après l'arrivée au pouvoir du PASTEF, où les premières critiques se font entendre. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Des photos et des images publiées en ligne et dans la presse, des témoignages pour confirmer, sans plus aucun doute possible, que Joseph Kabila est bien à Goma, ville de l'Est de la République démocratique du Congo, sous contrôle du M23. L'ancien président a reçu hier plusieurs représentants de diverses confessions religieuses. Leur entretien a duré un peu moins d'une heure. Les participants disent espérer que l'ex-dirigeant s'engagera véritablement pour le retour de la paix. L'actualité congolaise encore est la voie des poursuites judiciaires ouvertes contre Constant Mutamba. L'Assemblée nationale donne une suite favorable à la requête du procureur général qui veut poursuivre le ministre de la Justice. Il est suspecté de malversations financières autour d'un marché pour construire une prison à Kisangani, chef-lieu de la Tchopo dans le nord-est du pays. Autre homme politique congolais dans le collimateur de la justice, Nicolas Kazadi, cette fois député, ancien ministre des Finances. Les juges souhaiteraient l'entendre sur des accusations de propagation de faux bruits et de divulgation de secrets d'État, en cause notamment une interview qu'il a donnée au début du mois de mai où il évoquait la gabegie financière du pays. Une commission a été mise en place, elle doit rendre son rapport la semaine prochaine. Il est 8h37 à Kinshasa et sur RFI toujours. 7h37 à Bamako, on en vient au Mali et cette première déconvenue judiciaire pour les figures politiques. Cette dizaine de responsables de partis, d'anciens partis, aujourd'hui dissous, qui justement voulaient contester en justice cette dissolution. Leur stratégie, c'était celle du pilonnage, saisir autant de tribunaux que possible pour espérer obtenir gain de cause. 6 tribunaux de grande instance et la Cour suprême ont été saisis ces derniers jours. RFI a pu consulter 3 ordonnances où les premiers tribunaux se déclarent incompétents. Mais David Bachet, la bataille judiciaire n'en est qu'à ses débuts.
La suspension des effets d'un acte administratif revient à suspendre l'acte lui-même, écrit la présidente du tribunal de la commune 3 de Bamako, à savoir le décret portant dissolution des partis politiques. Elle et ses homologues des communes 4 et 5 se déclarent donc incompétents, renvoient vers la Cour suprême et refusent de statuer. Ils se mettent à l'abri, réagit l'un des avocats de la dizaine de personnalités politiques maliennes à l'origine de ces procédures. Nous ne leur demandions pas d'examiner une loi, nous voulions qu'ils constatent que nos droits civiques et politiques sont piétinés, poursuit l'avocat. Mais on ne va pas lâcher, on va faire appel. Les personnalités politiques maliennes, agissant en leur nom propre, puisque toute activité des partis dissous est interdite, avaient également saisi la Cour suprême. Elle pourra difficilement éviter de solliciter l'avis de la Cour constitutionnelle, veut croire l'un des avocats à l'œuvre, qui rappelle l'objectif de ces procédures coordonnées, amener la justice malienne à se prononcer sur le décret de dissolution, qui, selon les requérants, viole la Constitution. Ces procédures ne nous empêchent pas d'organiser pour la suite d'autres formes de lutte, prévient encore l'une des figures du mouvement pro-démocratie.
David Bachet qui signe des explications claires sur ce dossier juridique complexe à lire sur RFI.fr. La situation sanitaire continue de se dégrader à Khartoum. 70 personnes au moins sont mortes du choléra en 2 jours, selon les autorités de santé soudanaises. L'épidémie se propage à toute vitesse dans cette ville ravagée par 2 années de guerre. Près de 2000 nouveaux cas ont été enregistrés en 48 heures. Les Nations Unies ont bien lancé une campagne de vaccination dans le sud de la ville, mais l'ONU craint que près d'un million d'enfants ne contractent le virus. Eux viennent de compiler 2 années d'actualité qui ne font plus depuis bien longtemps la une des journaux. Les chercheurs d'Amnesty International se sont penchés sur 2 ans de violence armée au Nigeria. Ils indiquent qu'au moins 10 000 personnes sont mortes depuis 2023 et l'arrivée au pouvoir de Bola Tinubu. Près de 6 800 dans le seul état de Benue, 2 600 dans celui du Plateau. Conclusion sans appel, Dissa Sanoussi, porte-parole d'Amnesty Nigeria.
Rien n'a changé depuis. L'insécurité persiste au Nigeria et les gens souffrent. Le système de sécurité n'est pas très efficace pour protéger la population, ce qui est vraiment dangereux. Et le gouvernement nigérian n'a rien fait de significatif pour résoudre ce problème. Les hommes armés s'emparent de nombreux villages et de nombreuses zones rurales. Ces bandits se rendent habituellement dans ces zones rurales, tuent les gens, brûlent leurs biens et s'en vont. Personne ne connaît exactement leur identité. La plupart des meurtres ont eu lieu dans les états du Plateau et de Benue. L'État islamique opère principalement dans l'État de Borno et peut-être dans certaines parties de l'État de Kebbi. Mais la plupart des meurtres que nous avons recensés ont été perpétrés par des hommes armés. Je ne souhaite pas spéculer sur la question de savoir s'il s'agit de djihadistes ou non, car c'est au gouvernement qu'il incombe de mener une enquête. Malheureusement, le gouvernement ne l'a pas encore fait, et c'est pourquoi Amnesty International appelle encore et encore le gouvernement à faire ce qu'il faut pour enquêter sur ces incidents.
Issa Sanoussi d'Amnesty International Nigeria avec Willy Diallo. Le centre nord du Nigeria cette fois et le climat dévastateur, les pluies diluviennes qui ont touché la ville de Mokwa avant-hier soir ont causé la mort d'au moins 25 personnes. 10 autres sont toujours portées disparues selon les services de secours. Et puis au Gabon, Aaron Boupenza doit être inhumé aujourd'hui. L'ancien international mort il y a un mois en Chine qui a eu droit hier à une cérémonie d'hommage. Le footballeur de 28 ans décoré à titre posthume de la médaille d'officier dans l'ordre du mérite. Aaron Boupenza, titularisé 35 fois sous le maillot des Panthères, il a inscrit 8 buts en sélection. Il sera porté en terre aujourd'hui dans l'intimité, non loin du stade de l'Amitié à Libreville. Libreville, où à l'écoute de la Radio du Monde, il est 8h42.
Merci Edouard Dupénoët, bonne journée à vous.